RFI, 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et le journal avec vous, Xavier Besson, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à tous. À la une ce matin, le Tchad et la question du nombre de candidats pour les élections de décembre prochain. Face au faible engouement, la commission électorale tchadienne a prolongé de quelques jours jusqu'au 1er novembre la période de dépôt des candidatures. Mais l'Observatoire des associations sur le processus électoral estime qu'il faudrait en fait baisser le montant des cautions. Dans ce journal également, le Gabon, la junte au pouvoir à Libreville, autorise les observateurs internationaux pour son référendum constitutionnel le 16 novembre prochain. L'Est de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 qui continuent de gagner du terrain. Ils ont pris hier le contrôle de plusieurs villages dans le territoire de Wali-Kalé. Le Tour du Burkina Faso sanctionné par l'Union cycliste internationale. Le Tour du Faso qui avait invité une équipe russe. Et puis le festival Écran Noir, festival de cinéma à Yaoundé. Il s'est achevé hier avec pas moins de 4 récompenses pour le Camerounais Ena Scott, dont le prix spécial de l'Association africaine des critiques d'art. Est-il trop cher d'être candidat aux prochaines élections tchadiennes? C'est ce que pense l'Observatoire des associations sur le processus électoral, l'OAPET, qui déplore un nombre trop faible de candidats pour les législatives et les élections locales prévues le 29 décembre prochain. À l'ANJ, la commission électorale tchadienne a prolongé de quelques jours la période de dépôt des candidatures. Mais le vrai problème pour l'OAPET, c'est le montant de la caution. 3 600 000 francs CFA, par exemple, pour une liste de candidats aux municipales. Et elle demande au gouvernement de changer les choses en urgence. Ouzibé Gombo-Breye est le rapporteur général de ce collectif d'ONG.
Chaque jour, il y a de moins en moins des regroupements de partis politiques qui viennent déposer les candidatures. Quand vous prenez des grandes provinces comme le Wadaï, le Chéri-Baguirmi, le Kanem, il n'y a pas encore des dossiers déjà déposés. Nous avons essayé de contacter un certain nombre de chefs des partis politiques. Ceux-ci nous disent clairement que la caution, elle est tellement exorbitante. Il y a à côté les frais pour la campagne. Vous savez qu'en cette période, le pays vit une crise socio-économique terrible. On vient de sortir d'une saison pluvieuse qui est marquée par les inondations. Il y a la crise alimentaire à côté. Donc du coup, les partis sont vraiment confrontés à ce problème-là. Même ici à N'Djamena, aucun dossier n'a encore été déposé.
Ouzibé Gombo-Breye, le rapporteur général de l'Observatoire des associations sur le processus électoral au Tchad. Au Gabon, les choses se précisent en vue du référendum constitutionnel le 16 novembre prochain. On sait désormais que la campagne aura lieu pendant une semaine, du 7 au 15 novembre. Précision du ministre de l'Intérieur du gouvernement de la transition. Il indique aussi que les observateurs internationaux seront autorisés à venir surveiller le déroulement du scrutin. À Libreville, Yves-Laurent Goma.
Cette consultation cruciale pour notre pays sera ouverte aux observateurs internationaux pour renforcer la crédibilité de notre processus électoral, a notamment déclaré le ministre. Hermani Mongo a rappelé que c'est le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui s'est personnellement engagé à autoriser le déploiement des observateurs internationaux. Cette ouverture n'est toutefois pas un blanc-seing, a tempéré le ministre, qui rappelle que le déploiement des observateurs est régi par le code électoral qui encadrent leurs actions. Les ONG locales saluent une bonne décision. L'ancien régime avait verrouillé l'entrée au Gabon des observateurs et de la presse internationale qui souhaitaient couvrir les élections générales d'août 2023. Dans le chaos dans l'organisation, s'est soldé par le coup d'État d'il y a un an. Le 16 novembre prochain, les Gabonais auront le choix entre deux bulletins. Le vert pour voter oui ou le rouge pour voter non au projet de constitution qui prévoit un régime présidentiel à la place du régime semi-parlementaire en vigueur. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Au Mozambique, le Frelimo, le parti au pouvoir, dit maintenant vouloir dialoguer avec l'opposition après l'annonce par la commission électorale de la victoire de son candidat à l'élection présidentielle du début du mois. Annonce jeudi qui a provoqué d'importantes manifestations de mécontentement dans plusieurs villes du pays. Rassemblement réprimé par les forces de l'ordre. Au moins un homme a été tué. Et pour la porte-parole du Frelimo, il est temps de calmer le jeu. Alors que dans le même temps, Venancio Mondlane, le principal opposant, appelle lui à une nouvelle journée de manifestation demain lundi.
RFI à Goma, 98 FM.
RFI, 8h35 à Goma, le cessez-le-feu dans l'Est congolais a-t-il encore un sens en République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu? La semaine qui s'achève a été marquée par des combats, par la prise de la ville de Kalembe, par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et des affrontements qui se sont poursuivis hier entre les M23 et des miliciens Wazalendo, alliés de l'armée congolaise, autour de plusieurs villages du territoire de Walikale. Correspondance d'Héritier Baraka.
Selon des sources sécuritaires et administratives, les combattants du M23 ont attaqué simultanément plusieurs villages du groupement de Kisimba, dont les villages de Minjenje et Malemo, qui sont passés dans les mains des rebelles. Ces combats violents ont occasionné des déplacements vers la ville d'Epinga. Des centaines d'habitants, en majorité des femmes et des enfants, sont arrivés en masse dans la soirée d'hier sous une pluie battante, selon la société civile locale. Dans leurs offensives, les rebelles du M23 ont aussi pris contrôle des villages de Katobo, Luola, Mbukuru et Mukohwa. Selon des sources sécuritaires, ils chercheraient désormais à prendre la ville d'Epinga, base importante de l'armée, et ses alliés les NDCR, où se trouve un aérodrome. Au moins une dizaine de civils ont été tués depuis le début de la semaine dans ces combats, toujours selon des sources sanitaires dans la région. L'Angola avait condamné en début de la semaine la violation du cessez-le-feu par les M23. Des sources proches de l'AFC M23 disent ne pas être liés à ce cessez-le-feu n'ayant pas été associé avant l'annonce de cette décision. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Et des violences signalées également ces derniers jours au Soudan ainsi qu'au Togo. Au Soudan, pays en guerre depuis maintenant plus d'un an et demi, les FSR, les hommes du général Emeti, sont accusés d'avoir tué au moins plusieurs dizaines de personnes lors d'assauts menés dans deux villages de l'état d'Al-Jazira. C'est au sud de Khartoum. Tandis qu'au Togo, c'est la localité de Malbungu qui a subi l'assaut d'hommes armés pour la deuxième fois ce mois-ci. Attaque dans la nuit de vendredi à samedi qui n'a pas été revendiquée. Au moins 8 des habitants ont été tués dans ce village du nord du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso. Sabine Mélé.
L'incursion a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Selon plusieurs villageois, des hommes armés sont entrés dans une concession où ils ont tué de sang-froid 8 personnes. Le propriétaire d'une maison qui abritait des déplacés d'un village voisin pour échapper à l'insécurité a été abattu ainsi que ses protégés. C'est la deuxième fois en moins de 2 semaines que le village de Malbongu subit l'assaut des groupes armés. Quelques jours plus tôt, ils ont incendié des boutiques avant de disparaître dans la nature. Aucune victime n'avait été déplorée. Il ne se passe pas une semaine sans incident, c'est impossible, confie un habitant de la zone de Kpenjal West. Ces derniers mois, cette zone est devenue l'épicentre d'incursions des groupes armés, contraignant de nombreux villageois à quitter leur maison à la recherche de sécurité dans des villages voisins. Les déplacés internes sont en constante augmentation. Conséquence, les champs sont abandonnés et les activités agricoles complètement paralysées.
Sabine Mélé et ses attaques dans le nord du Togo, elles sont généralement l'œuvre de groupes armés installés au Burkina Faso. Cette semaine, le voisin ghanéen était mis en cause, accusé dans un article de l'agence de presse Reuters de fermer les yeux sur la présence et sur les activités sur le territoire ghanéen de membres de groupes armés venus du Burkina. Réaction hier du ministre de la Sécurité nationale. Il assure dans un communiqué que démentir toute forme de collusion avec les groupes djihadistes. Le Ghana, qui d'autre part voit sa ministre des Affaires étrangères prendre la tête du Commonwealth, c'est-à-dire l'organisation qui regroupe notamment les anciennes colonies britanniques. Shirley Botsoe, nouvelle secrétaire générale du Commonwealth, choisie pour un mandat de 4 ans. Elle entend le consacrer notamment à la question des réparations de la traite d'esclaves. Dans l'actualité ce matin également, la Côte d'Ivoire, Abidjan, annonce avoir rapatrié du Liban son ambassadeur ainsi que son personnel diplomatique. Évacuation officiellement pour des raisons de sécurité et qui se fait sur des vols commerciaux. Au total, entre 60 et 100 personnes devraient être concernées. Le cyclisme et le tour du Burkina Faso qui se poursuit. Troisième étape aujourd'hui entre Ouagadougou et Koudougou. Mais cette 35e édition sera sans doute la dernière sous sa forme actuelle. Le tour est retiré du calendrier de l'Union cycliste internationale. Sanction prise en raison de la participation d'une équipe russe invitée par les organisateurs, nous explique Thomas de Saint-Léger.
Le règlement de l'Union cycliste internationale est clair, pas d'équipe russe ou bélarusse au départ d'une course UCI, mesure en vigueur depuis le début de l'invasion de l'Ukraine il y a plus de 2 ans et demi, difficile à ignorer. Et pourtant, le CSKA à Moscou, club historiquement lié à l'armée, est invité cette année par les organisateurs du 35e Tour du Faso. L'UCI est mise au fait avant le début de la course et demande alors le retrait immédiat de cette équipe. Un courrier officiel est adressé, il restera lettre morte et vendredi, au départ de la première étape, les maillots floqués Russian Army, armée russe en français, sont bien présents au cœur du peloton. Le soir même, l'Union cycliste internationale annonce sa décision de retirer l'épreuve de son programme. D'autres mesures disciplinaires pourraient suivre. Et même si la deuxième étape s'est disputée normalement hier, cette mise au ban du calendrier officiel pourrait avoir de lourdes conséquences pour le cyclisme burkinabé et sa course phare. Référence en Afrique, le Tour du Faso souffrait ces dernières années de la situation sécuritaire du pays. L'édition 2022 avait même dû être annulée. L'épreuve survivait depuis sur sa réputation et sur le maintien du label UCI, indispensable à l'attractivité d'une course. Son avenir aujourd'hui s'inscrit en pointillé.
Thomas de Saint-Léger. Les sports, c'est aussi le football et le Nigeria qui obtient 3 points sur tapis vert après sa triste expérience en Libye il y a une dizaine de jours dans le cadre des qualifications pour la prochaine CAN. Les Nigérians ne sont jamais allés plus loin que l'aéroport désaffecté d'Alabrak où ils ont été bloqués pendant plus de 15 heures sans nourriture, sans explication avant de reprendre l'avion direction le Nigeria. Eh bien, la CAF, la Confédération africaine, vient de déclarer le match perdu par la Libye par forfait. Score donc de 3-0 pour le Nigeria. Enfin, avant de retrouver Julien Coquelroem, direction Yaoundé, où vient de s'achever le festival de cinéma Écran Noir. Une semaine de projection, une centaine de films, longs et courts-métrages, documentaires, séries, web-séries et une vedette, le réalisateur camerounais Enas Kot. Il a reçu 4 récompenses, dont le prix spécial de l'Association africaine des critiques d'art. À Yaoundé, Richard Onanena.
Son film Half Heaven, dans lequel l'actrice camerounaise Cindy Emadé partage l'affiche avec le Nigérian Chidi Mokeme, a été salué par la critique. Il rafle 4 prix. Enas Kot a dédié ses prix aux jeunes cinéastes, leur rappelant que tout est possible pour celui qui ne désespère pas. Fin de citation. L'Écran d'or, la plus importante distinction du festival, revient à Qui tout double de la Marocaine Rachida Saadi. Farah El Fassi, l'actrice principale, remporte le prix de la meilleure interprétation féminine, méritée, selon Thierry Edjegué, membre du jury.
L'histoire est assez bien écrite. Les autres aspects, que ce soit le son, l'image, la mise en scène, le montage, l'excellent jeu d'acteur ne pouvait que conduire à ce prix-là.
Divana Kate, réalisatrice congolaise qui prenait part au festival pour la première fois, n'a pas gagné de prix. Dévancée par le Camerounais Ena John Scott dans la catégorie meilleur film d'Afrique centrale, elle estime que le plus important, c'est que le message de son film voyage.
Mon film, Kozela, autrement dit Attente, parle de la condition mentale dans laquelle on se retrouve parfois lorsqu'on attend quelque chose qui vient pas. Le fait que le film soit sélectionné ici, pour moi, c'est déjà une consécration.
Cette 28e édition du festival Écran Noir s'est déroulée dans un contexte un peu morose, avec des salles noires peu fréquentées. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Et parmi les moments attendus de cette édition, il y avait la remise du prix 10 jours pour un film, prix spécialement destiné aux jeunes de moins de 30 ans, que nous présente le délégué général du festival, Bassek Bakobio.
Il y a 3 premiers qui sont retenus. Après une formation, réalise le premier film. À l'issue de cela, il y a un vainqueur qui est déclaré. Le vainqueur bénéficie d'un peu d'argent, mais surtout d'un mois de séjour professionnel en Allemagne. Et puis cette année, nous avons apporté une innovation. C'est que les techniciens même qui sont derrière sont tous des jeunes de moins de 30 ans, de manière à ce qu'on ne détecte pas que des réalisateurs, mais aussi des techniciens.
Bassek Bakobio, le délégué général du festival de cinéma Écran Noir à Yaoundé, au Cameroun, où il est maintenant 7h44. Et vous êtes avec Julien Coquelroem pour la suite des RFI Matin.